I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça fait du bien ces émissions. Je suis plus âgée, 69 ans, ancien bi, gay depuis 20 ans, toujours pratiquant. Par moments, j'avais l'impression d'être un extraterrestre au milieu des normés. Bah non, à écouter ces témoignages. C'est très sympa, voire rassurant, et parfois excitant. Encore merci, Vincent. C'est le mail que m'a envoyé l'invité que vous allez découvrir aujourd'hui. Vincent a eu 1000 vies déjà. Nous avons parlé de beaucoup de choses, de comment il a évolué dans sa bisexualité, son homosexualité, comment le masque social l'a rattrapé, ses mariages, ses enfants, et aujourd'hui, sa libido, comment il décorrèle le sentiment et le sexe. C'était un entretien sans aucun tabou. Vincent a une liberté de parole qui va sûrement déranger ou bousculer certains, mais il était important de l'entendre. Je vous laisse avec Vincent. Vincent, tu as 69 ans, tu es en face de moi et on va discuter, toi et moi, de ta sexualité. C'est ok ?
Ok, allons-y.
Allons-y. Vincent, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Alors, mon tout premier souvenir, j'y ai pensé en écoutant les podcasts précédents. Je me rappelle en sixième, on était dans la classe au lycée et le professeur projetait des diapos.
Ok.
Et on se montrait, j'avais un copain d'enfance, on va dire, que je connaissais depuis le primaire. Et on se montrait nos zizi tout durs, tous les deux. Dans la classe. Et il y a un troisième larron qui s'en est mêlé. Et on s'est fait, pendant toute la projection de diapo, dont je n'ai aucun souvenir de quoi il s'agissait, on s'est montré nos zizi tout durs.
D'accord, donc ça c'est le premier.
Et je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose d'intéressant.
D'accord, donc là t'as quoi? T'as 11 ans, t'es préadolescent.
Au sixième, je sais pas, 10-11 ans, oui.
Ouais. Mais... Et après, comment ça se passe, ta découverte de ton corps, de l'autre? Qu'est-ce qui a commencé à éclairer ta sexualité?
Je me rappelle, enfin, je me suis aperçu qu'il se passait quelque chose parce que tous les mercredis, mes parents m'avaient inscrit à une école de tennis, Et après les cours, on avait des douches communes. Et je me rappelle qu'on était quelques garçons à avoir des érections sous la douche et à se regarder, et à rester longtemps sous la douche, à se regarder à nos érections. Et à se toucher
mutuellement.
Et à se toucher. Au début, on se regardait. Après, on se touchait. Chacun se touchait. Et après, on se touchait mutuellement. Et voilà.
T'as quel âge à peu près? T'es adolescent?
Là, je devais avoir 12-13 ans, oui.
Donc là, tu continues ton apprentissage. La masturbation arrive à ce moment-là dans ta vie?
La masturbation avec avec éjaculation, je me rappelle très bien. Elle arrive, j'étais en troisième, j'apprenais ma leçon de sciences nat et en même temps, je me branlais. Et tout d'un coup, il y a du liquide qui est sorti.
Ok, c'était la première fois.
J'étais très surpris. Et je me suis dit, je savais ce que c'était que le sperme, je savais pas d'où je savais ça. Enfin, je me suis dit ça doit être du sperme, mais j'ai rien ressenti de particulier. Et je me suis réattaqué au problème pour mettre ça sous un microscope. Et donc j'ai vu les spermatozoïdes qui couraient sous la lame du microscope. Et je me suis dit, ah ouais, il y a pas de problème, c'est ça. Et ça, les petites bêtes, c'est les spermatozoïdes.
Ah, super curieux en plus.
Ouais, super curieux.
On parlait de sexualité facilement chez toi?
Alors mes parents étaient psychanalystes, donc en fait je ne connaissais. Ils parlaient de leurs patients à table. Je rentrais à la maison pour déjeuner le midi, et ils parlaient de leurs patients à table et de la sexualité de leurs patients à table, mais sans aucune barrière, comme des psys peuvent parler de la sexualité de leurs patients. Donc j'entendais ça dans les conversations, je ne comprenais pas tout. Ils m'expliquaient rien du tout. J'ai eu droit à la seule explication que j'ai eu droit, c'est la petite graine. C'est ma mère qui a dit que la petite graine, ça suffisait.
Ouais, c'était bien comme
histoire. J'ai dit quand même, faudrait qu'elle revoie les bases. Et puis non, c'est tout ce que.
Il y a des.
Alors par contre, mon père avait une énorme bibliothèque. Enfin, il avait plusieurs milliers de livres. Et j'avais le droit de lire tout ce que je voulais. Et si je voulais un bouquin qui n'était pas dans les bibliothèques, il allait me le commander. Je me rappelle lui avoir demandé d'aller m'acheter des livres interdits à la vente aux mineurs.
Ok.
Et il trouvait que c'était un scandale, l'interdiction à la vente aux mineurs. Donc il allait chez le libraire m'acheter les bouquins. Alors je me rappelle avoir lu « J'irai cracher sur vos tombes » de Boris Vian, qui était interdit à la vente aux mineurs à l'époque. Donc j'espère que c'est autorisé. Mm-hmm. « Les 11 000 verges d'Apollinaire », enfin des choses comme
ah
ça.
Ah oui, donc il y avait quand même... tes parents étaient plutôt d'accord pour cet éveil intellectuel et après...
Mon père était d'accord pour que je dise tout ce qui existait sur... Il n'aurait peut-être pas été d'accord pour « Mein Kampf », mais sinon il était d'accord pour que je dise tout ce qui existe, tout ce qui avait été publié. Quoi.
Donc, du coup, tu as eu un éveil intellectuel et tu as...
J'ai lu Le Club des Cinq, Le Clan des Sept, Arsène Lupin, tout Conan Doyle, tous les poèmes de Victor Hugo, Les 11 000 verges d'Apollinaire, énormément de bouquins de Boris Vian, donc un peu n'importe quoi.
Et c'est aussi comme ça que tu as pu un petit peu comprendre la sexualité, le sexe, ça t'a nourri ou ça faisait partie de la lecture lambda?
Non, ça m'a intrigué, ça m'a nourri, ça m'a appris plein de choses. Okay. C'est là-dessus que je me suis, si je puis dire, formé à ce que ça pouvait être. Quoi. Donc,
Et quand tes parents parlaient de leur passion, il y a des sujets qui t'ont marqué?
Je me rappelle les patients qui allaient voir les prostituées, les patients qui arrivaient pas à bander, des perversions, fétichisme, des choses comme ça.
Ok, donc là, bon, tu continues ton évolution, donc effectivement, tu...
Alors attends, parce que je suis quand même, je suis né en 50. Donc de mon temps, il faut se
projeter.
Je vais faire le vieux con. De mon temps, les écoles étaient pas mixtes. Donc c'était des écoles, la communale c'était que des garçons, le collège c'était que des garçons et le lycée c'était que des garçons. Et après j'ai fait les classes préparatoires. Il y avait une fille en sup et zéro en spé.
Ah oui.
Et après, il y a eu 68 où il y a eu l'ouverture. Je pense que c'est après 68 qu'il y a eu l'ouverture des écoles
mixtes. Ok. Donc, que entre garçons.
On n'était que entre garçons. Hein.
Tu continues ton exploration. T'as quel rapport à la puberté? Ton corps change? Comment ça se passe pour toi?
Ben, je découvre la masturbation. Je découvre que c'est agréable.
Ok.
C'est quelque chose que je pratique assez assidûment, plusieurs fois par jour, dont le soir pour m'endormir. Et je me rappelle, j'avais ma chambre jouxtait la cuisine et il y avait une porte entre les deux, ce qui fait que quand mes parents dînaient le soir dans la cuisine et je les entendais de ma chambre, j'entendais ce qui se passait dans la cuisine. Et un soir, ils ont été bouffés, et j'étais en train de me branler, ça m'a dérangé et je me suis mis à hurler laissez-moi foutez le camp de la cuisine si on peut plus se branler tranquille dans cette maison.
Ah, t'étais très à l'aise c'est assez étonnant d'arriver à dire ça à ses parents comme ça, mais ouais.
Et donc, ils ont quitté la cuisine, en fait.
D'accord.
Je crois qu'ils étaient très gênés et qu'ils ont quitté la cuisine.
Il y a de quoi, hein. T'arrives, donc là, t'es toujours dans tes jeunes années, collège, lycée. Et comment se passe l'attirance pour l'autre?
Alors, j'étais très emmerdé parce que je me rendais bien compte que j'aimais bien, je suis quand même très intéressé par les pénis des autres garçons, surtout quand ils étaient en érection, et que il y avait quelque chose pas tout à fait standard là-dedans, mais que le standard c'était d'être avec une fille, mais les filles ça me branchait pas spécialement, quoi. Donc c'était et bon, il faut que je te dise aussi que je suis un peu un enfant de vieux, c'est-à-dire quand je suis né, mon père avait 51 ans, ma mère avait 25 ans de moins que lui. Mm-hmm. Et j'étais fils unique et j'ai l'impression que j'étais là parce qu'il fallait qu'il y ait un enfant qui soit là, quoi, parce que c'était la bourgeoisie et que bon, ça, bon, en plus des psys, il fallait qu'il y ait un gosse, quoi. Dès qu'ils pouvaient se débarrasser de moi pour les vacances et tout ça, ils m'envoyaient colo ou des machins comme ça. Alors je passais tous mes étés en Angleterre dans une preparatory school, donc dortoir entre garçons, etc. Et là il se passait pas mal de choses, quoi.
Et là t'as compris, est-ce que t'avais mis le mot de ton attirance pour les garçons sur de l'homosexualité?
Ah oui, tout à fait, oui.
J'imagine qu'en plus tes parents, peut-être que au détour d'une conversation, tu l'as entendu. Enfin, ils avaient.
Non, je me rappelle plus que ça. Je me rappelle avoir assisté à une conférence de mon père où il a parlé sur la psychanalyse, où il a parlé de l'homosexualité, et où j'ai été obligé de quitter la salle. Je me suis mis à vomir et je suis rentré à la maison en taxi.
Ah oui.
Donc
il en parlait comment?
Oh, je me rappelle plus ça. Il veut dire les théories freudiennes habituelles.
Oui, c'est ça. Ça a dû être difficile pour toi, justement, parce que tu leur as dit.
Non, ils ont jamais su, en fait. Ils n'ont jamais su.
Ils n'ont jamais su ou vous n'en avez jamais parlé?
On n'en a jamais parlé. Je crois qu'ils n'ont jamais su.
D'accord. Donc, tu es dans tes vacances anglaises. Tu rencontres d'autres garçons.
Oui, on s'amuse ensemble.
Vous amusez. Donc, quand tu dis on s'amuse ensemble, c'est quoi? C'est que vous vous touchez, vous vous regardez, vous vous embrassez?
Plus que ça. Hein, c'est mes premiers rapports complets, ça a été
d'accord.
En Angleterre avec des garçons anglais.
Tu avais quel âge?
Je devais avoir 15-16 ans. Oui.
D'accord. Et donc, c'est là où tu découvres vraiment ton attirance pour les hommes et le sexe oral et la pénétration, etc. Ouais. C'est là où ça se fait. Tu es comment, toi, avec cette idée-là d'être homosexuel?
Très mal à l'aise. Non, ça c'était pas concevable, quoi. Donc,
tu te disais, est-ce que tu arrives à te. Le Vincent de cette époque-là se disait que c'était un passage obligé et que tu allais, entre guillemets, après prendre une voie plus standard, parce que tu as parlé de standardisation. Est-ce que c'était quelque chose que tu imaginais ou tu savais que tu étais homosexuel et que c'était...
Je crois qu'au fond de moi, je savais que j'y arriverais pas, mais qu'il fallait que je m'affiche marié avec une femme. Quoi. Donc
tu mettais ça sur le coup de l'excitation du moment, tu étais en vacances, tu sais ce que tu avais à faire avec ces jolis garçons anglais et tu te projetais avec une femme.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Oui, enfin, sans te projeter, j'imagine. Tu n'allais pas rentrer dans le mood, mais tu savais que c'était... En tout cas, l'avenir devait être ainsi.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Ok. Donc, là, tu es lycéen, c'est ça, environ. Tu commences tes études à peu près à ce moment-là?
Ah, il y a eu 68.
Il y a eu 68, tu as 18 ans.
J'ai 18
ans. Donc, en théorie, tu es l'année du bac, à peu près?
Oui.
Et alors?
68, c'était génial, je veux dire, c'était...
raconte-le-moi, parce que pour le coup, là...
C'était les manifs, la première fois que j'ai brûlé des bagnoles, un pied pas possible, un vent de liberté, de se dire qu'on allait détruire le... Moi, j'étais persuadé qu'on allait détruire le système, quoi.
T'étais à Paris, toi?
Oui, j'étais à Paris.
Ah oui, donc t'étais au cœur du truc,
j'étais
quoi.
J'étais persuadé qu'on allait tout foutre en l'air, et puis... Enfin, une solidarité, de la déconnade, une formation politique, une formation à la politique. Non, c'était vraiment génial. Quoi.
Est-ce que tu penses qu'il y a des restes de mai 68? Est-ce que tu vois les évolutions que vous avez soulevées avec vos revendications dans les rues?
Non. Enfin, je vois tous les anciens 68ards à des postes de responsabilité. Il y en a quand même beaucoup.
Toi aussi?
Non, j'ai jamais été à des postes vraiment de responsabilité. Il y a des postes 68 ans très énervants, quoi. Donc, je pense à, on peut donner des noms.
Ah, bah, tu donnes ce que tu veux.
Gérard Miller et Serge Julie, ils ont pour don de m'énerver, de m'énerver absolument, quoi.
T'as gardé tes engagements politiques?
Non, pas du tout. J'ai été maoïste pendant 6 mois. J'ai milité à servir le peuple et j'ai été viré parce que j'ai remis en cause une pensée du président.
Ah, okay.
C'est tout. Okay. Donc, on m'a demandé de faire mon autocritique et tout le machin. Donc, j'ai dit qu'il fallait pas déconner non plus.
Ok, il faut partir maintenant. D'accord.
Non, sinon, je suis de gauche toujours.
Enfin, t'as gardé ça.
Si ça veut dire quelque chose encore. J'y crois plus du tout en la politique. Je veux dire, j'ai beaucoup cru en Mitterrand en 81 et puis la Rigueur en 83. Bon, ça t'a achevé. Ça m'a achevé.
Ok. Et cette révolution sexuelle qui a depuis quelques temps, alors qui est beaucoup digitale, hein, parce qu'effectivement les gens sont un peu moins dans la rue sur ce sujet-là, mais il se passe un vrai mouvement sur que les féministes portent, mais que certains hommes portent aussi. Tu le vois ça? Tu trouves que c'est tangible ou pour toi la vraie révolution elle se fait dans la rue?
Non, c'est les pratiques qui ont énormément changé avec
l'évolution.
Avec la technologie. Bon, mais faut pas non plus. Avant il y avait le Minitel.
Oui, c'est vrai.
Puis avant il y avait des lieux de rencontre plus classiques comme les bois, des choses comme ça.
Oui, c'est vrai.
Enfin, je parle pour le côté gay, quoi. Mais
On va parler de la façon dont tu rencontres les hommes. Mai 68, donc un moment qui est très fort dans ta vie, j'imagine, et qui a été assez incroyable à vivre. Tu commences tes études?
Oui.
Et là, comment ça se passe?
Ben, ça se passe. J'étais passionné par les maths. Donc,
nous n'avons pas ça en commun.
Parce que c'est, les maths, c'est un truc, c'est binaire, quoi, c'est clair. C'est...
D'accord, donc tu fais quoi? C'est ce que tu dis, tu fais SP et...
J'ai fait SUP SP, donc SUP, je voulais être chercheur en mathématiques, excusez du peu. Donc mon projet, c'était d'intégrer l'école normale.
Ok, et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu n'étais qu'avec des hommes, qu'avec des garçons.
Oui.
Et donc là, pareil, tu as trouvé des partenaires dans
tes
classes?
Non, alors là, j'ai passé 2 ans, je devais me branler, je pense, mais c'est tout, quoi. Je bossais.
J'imagine.
Faut voir que les classes prépa, je me rappelle, je m'endormais sur mon bureau, je me réveillais en m'apercevant que je dormais sur mon bureau à 3h du matin. Je passais 2h au lit, à 5h j'étais debout, replongé dans les bouquins.
C'est un enfer.
Je repartais au lycée. C'est un enfer, oui et non, parce que c'est un enfer, oui, mais ça te forme après. Tu peux pas savoir. Il peut t'arriver n'importe quoi. La formation que tu as eue en prépa te permet d'affronter n'importe quelle charrette. Tu sauras faire. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Ça te forge l'esprit, tu veux dire? Ça te donne une force de caractère qui...
Tu sauras faire. Tu paniques pas, tu sauras faire. Donc, pas été reçu à normal. Et puis j'ai décidé de partir à la fac, faire des études plus classiques, universitaires.
D'accord.
Pareil, à la fac, j'étais passionné par les maths. Je faisais que bosser. Je bossais. J'étais en bibliothèque. J'apprenais des trucs. Ça me passionnait. C'était très solitaire.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu avais réussi à lier quand même d'amitié avec des garçons?
Rien.
Du tout. Donc, tu étais toujours tout seul? Tu travaillais toujours tout seul?
Je travaillais toujours tout seul, oui.
Et tes copines?
Aucune. J'étais tout seul.
Mais c'est la solitude, quelque chose qui t'a dérangé?
Non, j'adore ça, être seul.
D'accord.
J'adore ça.
T'es à l'aise dedans?
Oui, je trouve que je comprends pas comment on peut ne vouloir être en couple, en fait. C'est un truc qui me...
Ouais,
en y réfléchissant, ça me sidère. J'adore pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, sans avoir à demander l'avis de quelqu'un.
Ah oui, après, t'es pas obligé d'avoir une dépendance à l'autre. Tu aimes être seul.
J'aime être seul.
Tu fais ces études-là, donc tu fais un cursus de quoi? De 4 ans?
Plus que ça, j'ai fait un cursus de 5 ans.
5 ans. Et tu commences ta vie active. Donc là, pendant cette période-là de prépa et puis ensuite
non,
de fac...
Non, j'ai eu une copine... Je me suis marié à 20 ans.
Attends. Tu dis je suis tout seul, bam, je me marie à 20 ans. Attends, il s'est passé un truc entre les deux. Donc tu rencontres une fille quand tu commences tes études. Enfin, t'es après le bac, donc tu rencontres une fille.
Oui, alors voilà, c'est ce qui s'est passé. Mon ami d'enfance m'a gentiment fait comprendre qu'il fallait quand même que je fréquente. Et
okay.
Je me suis dit, il a raison, mais comment on fait
Oui, tu n'avais pas les codes, tu ne savais pas.
Et il me présente quelqu'un, il était assez futé parce que intellectuellement, c'est tout de suite très bien entendu.
Avec cette femme?
Avec cette femme, et on a assez rapidement couché ensemble.
Et alors?
Et alors, ça s'est passé comme ça.
D'accord. Mais toi qui n'avais jamais été attiré par le corps d'une femme et qui avais eu de relations sexuelles avec une femme, c'était différent, c'était finalement bien, c'était comment est-ce que tu te rappelles ce moment-là?
Non, c'était bien. Mais si tu veux, ce qui m'a toujours gêné, c'était bien, c'était agréable, c'était. J'aime bien donner du plaisir, j'aime bien en prendre.
Jusque-là, ça va?
Mais j'avais l'impression que la société m'a signé un rôle qui n'était pas le mien. J'avais l'impression d'être sur une scène de théâtre.
De jouer un rôle, oui.
De devoir jouer un rôle.
Tu avais le masque social qu'il fallait avoir.
Voilà, c'est ça.
Tu étais avec cette jeune femme à 20 ans.
Et
vous vous mariez.
Et on se marie. Donc à l'époque, la majorité était encore à 21 ans.
Mm-hmm.
Alors on était sous Giscard. Sous Giscard, c'était l'horreur, je veux dire. C'est la chape de plomb, quoi.
Mm-hmm.
Donc mes parents sont OK pour m'émanciper. On se marie et on vit ensemble.
Donc là, tu fais la vie en couple, à deux.
À deux.
Vous êtes à Paris.
Oui.
Ce mariage va durer combien de temps?
8 ans.
Ah, quand même. Pour quelqu'un qui voulait pas vivre en couple, c'est pas mal. C'est pas mal.
Oui, oui, non, c'est... non, mais j'ai eu un autre, j'ai eu une autre vie de couple aussi avec une femme qui a duré encore plus longtemps. Mais
d'accord. Donc, tu as 8 ans avec cette femme. Comment ça se passe sexuellement?
Sexuellement, ça se passe, pour, ça se passe bien, mais je trouve qu'il y avait pas, j'avais, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais c'était pas assez fréquent, quoi. Donc,
d'accord. Tu regardes encore les hommes à ce moment-là?
Je regarde encore les hommes et je regarde d'autres femmes aussi.
D'accord. On peut dire que t'es bisexuel?
On peut dire que à cette époque-là, je suis bisexuel. Oui.
À cette époque-là, t'es bisexuel. Tu as des aventures avec des hommes?
Oui.
Ta femme ne le sait pas?
Non.
Et t'arrives à trouver un équilibre entre tes aventures avec homosexuels et ta vie de couple et ta sexualité hétéro?
Oui. C'était complètement cloisonné, à l'ancienne.
Très clair pour toi.
Dans le placard.
D'accord. Donc ce mariage dure 8 ans. Vous divorcez parce que vous vous entendez plus?
Non, on s'entend toujours très bien.
D'accord.
Sauf qu'elle, on a eu un enfant.
Donc tu es papa?
J'ai 3 enfants, oui. Donc, avec elle, j'ai eu un enfant. Elle a fait un trip, retour à la terre, élever des brebis dans les Cévennes. Emmener l'enfant, passer un an en Inde et au Népal avec le gosse qui devait avoir 3 ans à l'époque.
D'accord. Donc elle part avec votre enfant.
Oui.
Et elle va choisir un autre chemin de vie que votre vie que vous aviez à Paris.
Voilà.
Et donc vous divorcez à ce moment-là?
Non, elle revient, on s'entend plus. Enfin bon.
Oui, vous êtes sur des chemins de vie.
On mène chacun un peu notre vie de notre côté et puis on se dit que le plus raisonnable ce serait quand même de divorcer.
Et toi, ta paternité, comment tu la vis à ce moment-là? T'arrives à connecter avec ton enfant?
Ah oui, j'arrive à me connecter. Je suis un père anxieux. T'es très heureux
d'être père.
Ouais.
Ils ont quel âge tes enfants?
On va dire 40, 30 et 20.
Et ensuite, comment ça se passe? Tu retournes vers les hommes assez naturellement? Tu continues à avoir des aventures avec des femmes?
Alors, j'étais avec cette femme. J'avais des maîtresses aussi.
Des amants, des maîtresses?
Oui.
Quelle vie! Quelle organisation!
Non, mais c'était assez... Il y avait beaucoup de gens qui vivaient comme ça, hein, des post-68 heures qui étaient...
Alors moi, j'ai une question à te poser, parce qu'il y a un compte que je suis qui s'appelle Sainte Paluche, qui est super, et c'est un journaliste qui fait part d'articles sur la sexualité et les couples, et il a sorti quelque chose sur l'infidélité. Et j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux qui étaient très condamnables. Oui, tu peux pas faire ça à une femme, c'est pas bien, etc., etc. Toi, l'infidélité, tu l'as vécu comment? Tu culpabilisais?
Ah non, moi j'ai toujours pas compris le concept de fidélité, je veux dire.
C'est intéressant.
C'est un truc que j'ai... quand on se promet, là, je crois que ça existe toujours devant le maire, quand on se promet fidélité, je trouve que c'est complètement con. Quoi.
C'est bidon.
Ça peut pas tenir. De toute manière, tout le monde sait que ça peut pas tenir.
Pourquoi ça peut pas tenir? C'est ça qui m'intéresse.
Bah, je sais pas. Je connais pas d'homme qui soit...
Dans ton entourage, il n'y a aucun homme fidèle. Tu vas rassurer les gens, là. Ils vont être contents. Pour toi, c'est pas possible, la fidélité.
Je sais pas, mon père m'avait donné l'exemple. Il y avait des maîtresses, dont une officielle. Donc, pour moi, là, c'était tout à fait normal.
Et ta mère le trompait aussi?
Ah non, ma mère, je pense qu'elle a baisé une fois. C'était pour me faire et que...
Ok.
J'en sais rien.
Bam. Ok. Et ta première femme avait des amants?
Oui.
Et vous en parliez ou c'était
non.
Chacun va cloisonner comme
c'était
tu dis.
Cloisonné.
Mais c'était.
Enfin,
c'était un accord
tacite.
On se
disait quoi. Mais oui, juste, okay. Juste comme ça.
Je vois un copain, je vois une copine.
J'ai couché avec Bidule. Bon, t'as couché avec Bidule.
Ah moi aussi, ça tombe bien. Ta femme savait que t'avais des aventures homosexuelles?
Non.
Ça, tu lui as jamais dit?
Non.
Par peur de son jugement ou parce que?
Parce que j'avais décidé de cloisonner et que.
C'était vraiment deux vies que t'avais.
Oui.
Tu es le même dans chacune de ces vies?
Ah oui.
Tu y a pas de différence. Pour toi, tu es le même Vincent avec les hommes qu'avec les femmes?
Non, c'est beaucoup plus superficiel avec les hommes. Enfin, c'était beaucoup plus superficiel avec les hommes. C'était des rencontres. Des rencontres, on tire un coup.
Pour
et
le
puis,
sexe.
Voilà,
avec les femmes, tu mettais plus de.
On se raconte plus, quoi. On écoute plus l'autre, on se raconte plus.
Il y a plus de tendresse?
Non. Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de tendresse dans le rapport sexuel avec un homme.
D'accord.
Aussi curieux que ça puisse paraître qu'avec une femme. Ça peut être très très tendre.
Entre deux hommes.
Entre deux hommes, oui.
C'est vrai qu'on a l'image un peu comme ça.
Non, si on regarde les pornos, genre Cité Beurre ou je sais pas quoi, où c'est toujours violent.
Oui.
Non, mais ça peut être très très tendre les rapports entre hommes.
D'accord. Donc tu divorces de ta première femme, tu continues d'avoir des amants et des maîtresses.
Oui.
Et ça, ça dure combien de temps à peu près, cette période
Ben genre, donc je, en fait...
tu n'as pas 30 ans quand tu divorces de ta première femme.
Non, non, j'ai 28. Donc je me mets, je me remets en ménage avec une maîtresse que j'avais avec elle, enfin pendant que j'étais avec elle, mm-hmm. et qui était une femme, je sais pas, j'ai l'impression qu'on avait le même logiciel. Non, on fonctionnait pareil, quoi.
Donc, vous, vous intellectuellement.
Intellectuellement, sexuellement.
C'était ton, ton miroir.
C'était un peu mon miroir. Et donc, on avait chacun des aventures de notre côté. On le savait. Ça posait absolument aucun problème. Elle savait que, alors elle savait que je couchais avec des garçons.
Et ça lui posait aucun
problème.
Ça
lui posait aucun problème. Bah, je peux te raconter une anecdote. Si
mais je t'en prie, c'est fait pour.
Donc, je me rappelle une fois, on était parti bouffer chez mon ami d'enfance. Et donc on était tous les trois à déjeuner, je crois. Et puis après le déjeuner, on papote, on déconne, on a des trucs habituels, quoi. Et puis il me fait comprendre devant elle qu'il aimerait bien coucher avec moi.
Ton ami d'enfance est gay?
Oui. Hein?
Ton ami d'enfance est homosexuel?
Non, pas du tout, non.
Mais il te dit quand même qu'il a envie de coucher avec toi?
Oui.
Ok.
Et
moi, cette ouverture d'esprit me fascine.
Et moi, je lui dis que ça ne me déplairait pas du tout.
Il n'y avait jamais eu d'attirance entre vous?
Si, on avait joué à touche-pipi, des choses comme ça, quoi.
Oui, mais bon, c'est pour un ami d'enfance, tu peux t'aiguiller un peu, mais bon, là, ok, c'est l'occasion.
Et donc, elle comprend le truc, elle rentre à la maison, quoi. Elle m'a dit après, c'est la seule fois où j'ai eu envie de prendre un pavé et de casser le pare-brise de la bagnole.
Ouais, je peux comprendre. Et du coup, elle vous a laissé faire ce que vous aviez à faire, ouais. Et vous avez fait l'amour.
Oui, oui.
Et c'était quoi? C'était un one shot ou c'est devenu un amant?
C'est devenu un amant.
Mm-hmm.
Et c'est devenu un psychiatre et qui m'a dit plus tard que j'étais un grand pervers.
Ah.
Ce qui m'a fait hurler de rire.
Oui, parce qu'il est pas mal aussi dans son genre.
Il avait eu du sien.
Pas mal aussi quand même de propos faire des avances à un mec devant sa femme, c'est pas mal aussi. Pourquoi il a dit que t'étais un grand pervers, ton ami? À propos de ça ou parce
que il a dit que l'homosexualité était une perversion.
Bah, aujourd'hui, c'est plus considéré comme une paraphilie, mais ça a été longtemps, en tout cas, décrit comme. D'accord, donc il y a cette aventure qui est, on dirait un film, hein, ton histoire. Donc, t'es avec cette femme. C'est avec elle que tu as eu tes deux autres enfants?
Non.
Donc ça, c'est cette femme avec qui tu te mets en ménage quelques années, du coup?
Elle est morte d'une overdose entre les deux tours de l'élection de Mitterrand.
D'accord, donc elle est morte début des années 80.
81, hein, élection de Mitterrand.
Elle avait un problème avec la drogue ou...
On était tous les deux toxicos.
D'accord, vous preniez quoi?
On prenait à peu près tout ce qu'il y avait sur le marché à l'époque, c'est-à-dire de l'héroïne, de la coke, et puis des produits pharmaceutiques.
C'est avec elle que tu as commencé à te droguer ou tu te droguais déjà avant?
Non, c'est avec elle que j'ai commencé à me droguer.
Et... Mais elle était jeune, du coup, elle avait quoi?
Elle avait mon âge. Hein.
Oui, c'est ça, elle avait une trentaine d'années. Ça a dû être difficile de se remettre de ça, parce qu'en plus, tu te droguais encore?
Non, je me droguais plus, ou je me droguais encore un petit peu, enfin, je me rappelle pas bien. Je sais que si je peux dire un truc, c'est que Mitterrand m'a sauvé la vie d'un certain côté, que je croyais pas dans la victoire possible de Mitterrand. Et je m'étais dit, si jamais ce type est président de la République, je touche plus jamais la dope de ma vie.
Ah, y en a qui attendent un signe de Dieu, tu attendais un signe électoral.
Et donc, j'ai plus jamais touché à la dope.
Grâce à Mitterrand.
Grâce à Mitterrand.
Merci tonton. Donc t'as arrêté la drogue. Ça a été difficile?
Ça a été une semaine d'horreur, mais voilà.
Tu étais amoureux d'elle?
Oui, j'étais amoureux d'elle. Ah. Non, c'était l'horreur absolue. C'était vraiment très, très douloureux. Je m'en suis toujours pas remis, je pense.
Après son départ, comment ça se passe? Donc, en plus, tu arrêtes la drogue, donc tu dois être dans un moment de vie quand même qui est assez fragile. Tu continues tes aventures avec les hommes?
Oui.
Et avec les femmes?
Plus avec les hommes. Et puis le VIH est arrivé, donc...
T'as senti un avant-après dans la communauté gay?
Ah oui, oui, ah bah oui.
C'était...
Ah oui, oui, Au pire, on se chopait une gono, une chaude pisse ou des champignons, je sais pas quoi. Bon,
une IST qui passe avec Tremédoc.
On allait au centre Tarnier. Tout le monde était le matin, se précipitait au centre Tarnier le matin rue d'Assa. C'était rigolo d'ailleurs. Il y avait,
tiens, salut Michel, salut. J'imagine.
On te filait un traitement de minute, on te faisait boire de la bière pour que tu pisses.
Paf.
Et si ça te brûlait encore quand tu pissais la bière, on investiguait plus loin. Sinon, le traitement minute avait marché. Et puis voilà,
pas mal.
Au revoir, monsieur.
Et pas très onéreux. En plus, une petite binouze, pas mal. D'accord. Donc il y a un avant-après avec le VIH. Toi, tu sortais dans la communauté gay à ce moment-là. Comment tu rencontrais des gens?
Principalement par les saunas.
Ah oui, les saunas.
Les saunas. Mm-hmm. Puis après, il y a eu l'arrivée du Minitel. Ça marchait aussi bien que,
que
Grindr ou je sais pas quoi.
Mm-hmm. Donc, tu fréquentais pas, c'est ce que tu dis, le milieu gay?
Non.
Par choix, parce que tu t'y retrouvais pas? Qu'est-ce qui t'a freiné?
C'est une bonne question. J'ai toujours été mal à l'aise avec le fait de me revendiquer homosexuel à l'époque. Donc,
t'étais pas à l'aise à l'idée d'afficher ça?
Non, c'était j'étais mal à... je sais pas, c'était
d'accord. Un
conformisme petit bourgeois qui me rendait...
qui était toujours là.
Qui était toujours là et qui me disait non.
D'accord. Donc là, on est dans les années 80, donc tu fréquentes des hommes, plus que des femmes, c'est ce que tu dis. On arrive à peu près à la rencontre avec ta deuxième femme,
oui.
Si mes calculs sont bons. Je suis pas si mauvaise en maths, finalement. donc tu rencontres ta deuxième femme.
Oui.
Avec elle, donc ça va durer combien de temps, votre mariage?
De 86, et le divorce a été officiellement prononcé en 2001, mais ça a pris des plombes à se faire, oui.
Donc tu restes avec elle assez de temps pour avoir deux autres enfants?
Oui.
Votre mariage est heureux?
Non.
Pourquoi tu te maries avec elle?
C'est une bonne question que je me pose toujours.
D'accord.
C'est elle qui est venue me chercher, et ça a été une grosse erreur de me marier.
Votre sexualité était donc du coup à l'image du mariage, pas très heureuse?
Assez nul, oui.
Assez nul. Tu continues à avoir des amants?
Ah oui, j'ai jamais arrêté ça.
Constante. Et des maîtresses aussi?
J'ai fait des plans avec des femmes. Je faisais des plans avec des femmes pour voir. Ça m'amusait.
Tu préfères séduire des hommes ou des femmes?
C'est pas du tout pareil.
Explique-moi la différence, si tu peux.
Oh ben, avec un homme, c'est beaucoup plus direct. Okay.
Je te trouve beau, j'ai envie de toi. Avec une femme, c'est quoi? C'est plus intellectuel?
Il y a un jeu de séduction. Le jeu de séduction est complètement différent.
Et c'est ça qui te plaît?
Oui, c'est la drague, c'est très amusant. C'est très, très amusant, quoi.
Et les femmes, tu les rencontrais où?
Pareil, sur Internet.
Sur Internet aussi?
Enfin, sur Minitel, je veux dire.
Ah oui, sur Minitel, pardon. Sur Minitel. D'accord. Tu as été amoureux d'un homme, déjà?
D'un seul.
D'un seul?
D'un seul.
Sur tous les partenaires que tu as eus, il y a eu un homme dont tu es tombé amoureux?
Il y a eu un seul homme dont je suis tombé amoureux.
Vous avez une histoire?
On a eu une histoire d'un an ensemble.
C'était pendant ton deuxième mariage?
C'était après le divorce.
Après le divorce? Et votre histoire n'a pas pu durer plus longtemps?
Non, parce que je suis quand même assez... Je dois te reconnaître que je suis tout à fait invivable. Hein, donc,
Pourquoi tu es invivable?
Parce que je sais pas faire de compromis.
C'est pas dans ton code génétique?
Quand quelque chose me plaît pas, je le dis.
Ça plaît pas toujours?
Ça plaît pas toujours. Quoi,
d'accord. T'as eu combien à peu près d'amants, tu sais?
D'amants hommes,
et je te poserai la même question pour les femmes.
Alors, d'amant homme, ça dépend ce qu'on appelle amant, quoi. Si c'est juste... il faut qu'il y ait sodomie ou pas? Non, parce que j'ai une question que je me pose toujours. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport sexuel? Il y a Foucault qui j'ai pas réussi à retrouver où est-ce qu'il avait dit ça, mais je suis à peu près sûr qu'il a dit ça quelque part, mais j'ai pas retrouvé où, que le vrai homosexuel, c'était le passif.
Ah, il y a un vrai débat, parce qu'aujourd'hui même, qu'est-ce qu'un rapport sexuel? Il y a quelques années, effectivement, pénétration égale rapport sexuel. Mais non. Mais non.
Mais c'est quoi une pénétration? Buccale, c'est une pénétration.
Mais c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'une pénétration? Et tu peux avoir un rapport sexuel où il n'y a pas de pénétration vaginale. On va prendre un couple hétéro. Enfin, voilà, il n'y a pas de pénétration vaginale par un pénis. Mais tu peux avoir un rapport sexuel extraordinaire sans ça. Les femmes qui ont des rapports entre elles, il n'y a pas forcément de pénétration. On va dire que c'est pas, il n'y a pas forcément sodomie. Donc, combien d'amants?
Plusieurs milliers. Oui, tout le monde est toujours surpris quand on annonce des chiffres pareils. Mais...
Ah bah quand même, ça fait une bonne partie de l'Île-de-France. Hein. Plusieurs milliers.
Non, parce que il y a combien de semaines dans l'année?
Il y a 54 semaines.
Bon, deux plans par semaine, c'est pas...
Ah oui, bah oui.
C'est pas exagéré.
On est à 108 par an.
Voilà. Donc,
depuis 20 ans. Voilà, 69 moins 20. 49, c'est toi qui es bon en maths, 49 fois 108, ça fait beaucoup. Ah oui, quand même. T'as toujours été actif sexuel comme ça?
Non, j'ai été passif aussi.
Non, t'as toujours été aussi actif? T'as toujours eu autant de désir, d'envie, de libido?
Mais il y a des gens qui vont à la salle de sport. J'ai des copains qui vont à la salle de sport régulièrement, tout trois fois par semaine. Moi, je considère que si je vais pas au sauna au moins une fois par semaine, ça va pas, quoi.
Alors, pour les gens qui connaissent pas, parce que c'est vrai que Pierre, dans un épisode, parlait des backrooms, parce que c'est vrai que c'est, on connaît pas. Qu'est-ce que c'est le sauna? Est-ce que tu peux l'expliquer, comment ça se passe?
Ah ben, le sauna, c'est un endroit où, de rencontre pour les gays, où il y a, alors suivant les établissements, il y a toujours des saunas, des hammams, des cabines avec une couchette.
Les coins câlins.
Ouais, enfin, c'est très sommaire. Hein,
de prison, les coins câlins de prison.
Voilà, c'est ça. C'est
une natte et bam.
Je crois que Balkany est mieux logé que dans une cabine de sauna en ce moment à la santé.
Et tu fais tes rencontres là.
Et ça se passe par les regards, le toucher.
Vous êtes nus tous?
Non, on a une serviette autour de la taille.
Et c'est quoi la population? C'est hétéroclite ou c'est plutôt des hommes de ton âge ou des plus jeunes?
Oh, ça va de 18 à 80 ans.
Ah quoi. Oui.
Ça dépend. Chaque sauna a plus ou
c'est
moins.
C'est ce que j'allais te demander. Il y a des établissements qui sont plus ou moins
plus ou moins ciblés, quoi.
D'accord. Tu sais le type de gens que tu vas rencontrer en fonction du sauna où tu vas.
Et puis oui, voilà.
T'as tes habitudes dans certains saunas?
Oui.
On te connaît par ton prénom?
Ah non, personne, on donne pas, c'est très anonyme. Hein.
Je sais pas, le monsieur qui donne la serviette pourrait dire, hey, salut Vincent, comment ça va?
Non, on se reconnaît, mais.
D'accord. Et c'est là que les choses se font naturellement. Avec les préservatifs sont distribués.
Dans les pièces, il y a des distributeurs de gel, des distributeurs de capotes un peu partout.
Et pourquoi t'aimes ce type de rencontre? Parce que c'est anonyme?
C'est anonyme, c'est excitant, c'est glauque, c'est sordide.
Et c'est ça qui te plaît? C'est pour ça que ton pote psy disait que t'étais pervers. Parce non, que t'aimes quand c'est glauque et sordide.
Il faut relire Genet, il y a un côté sordide dans l'homosexualité qui est vachement excitant. Il y a
d'accord. Et t'es OK avec ça, toi? Ça te met pas mal à l'aise de qualifier ta sexualité de potentiellement sordide et glauque?
Elle est pas la sexualité, non. La sexualité est pas sordide et glauque. C'est l'environnement qui est sordide.
D'accord, l'environnement.
Mais le rapport sexuel, il a rien de sordide ni de glauque.
Il est tendre, tu disais tout à l'heure.
Il peut être très.
Et t'as eu des amants de tout âge? Parce que là, on arrive doucement à maintenant. Ta sexualité aujourd'hui, t'as des amants de tout âge?
Ah oh non. Non, je cherche pas l'Apollon de 18 ans. Non. Non, en ce moment, j'ai des réguliers, on va dire. J'ai deux réguliers, un de 45 ans et un de 39 ans.
Bah, des petits jeunes, quand même.
Ils sont plus jeunes, oui, ils sont nettement plus jeunes que
69
moi.
69 ans, c'est pas mal, quand même. Et c'est des hommes que tu vois depuis longtemps?
Ceux-là, non, ça dure jamais une éternité. Hein. Ça doit faire depuis 2 ans.
Bah, c'est pas mal, comme plan régulier.
Non, puis ils sont tous les deux mariés. Hein, donc,
Ah, mariés avec des femmes?
Marié avec des femmes et ils se disent 100% hétéro. Donc
bien
ça,
sûr.
Ça fait toujours marrer.
Évidemment.
Ça, c'est un truc,
ça, c'est les meilleurs. Ça,
c'est un truc qui m'a amusé parce que j'aime bien le titiller là-dessus. Surtout qu'on a une tendresse tous les deux qui est géniale. Vraiment une.
Vous voyez qu'au sauna ou vous voyez
non,
chez toi?
Non, on se voit chez moi là. Non, ça, c'est des oui, transports de réguliers, c'est, on se voit chez moi. Et donc, je le charrie en lui disant, mais t'es sûr que t'es 100% hétéro? Pourtant, tu viens de te faire enculer, là, donc. Et oui, non, mais je suis un hétéro vicieux.
Ah, c'est ça. On en revient au côté un peu sordide et glauque et pervers de la chose. Très bien. Aujourd'hui, on comprend quand tu en parles, Vincent, tu ne vois que des hommes maintenant.
Oui, alors oui, j'ai décidé en 99 que pour en passer, on arrivait au 21e siècle,
l'an 2000,
l'euro, l'an 2000, que des Sarkozy, mecs. Macron, ah ouais,
ça,
tout ça.
Ça t'a...
La seule manière de s'en sortir, je dis ça en déconnant. Hein.
D'accord, tu t'es dit en 2000, les années 2000, c'est que du mec.
Non, je me suis dit
sans regret.
C'est que du mec. Non, aucun regret. Non,
d'accord.
Non, un soulagement, si je suis désolé.
Un soulagement parce que plus besoin de quoi, du masque social, c'est ça?
Non, et puis il y avait un truc qui me dérange. Enfin, il y avait un truc avec les femmes, de l'ordre du faux semblant. Fallait faire semblant, quoi.
Faire semblant de quoi?
De fallait s'inscrire dans des codes.
Toujours les codes sociaux dont tu parles.
Mais oui, mais il y a un truc que je pensais à ça avant de venir ici, c'est quand t'as un rapport avec un mec. Pour rendre un hommage appuyé à Christine Boutin, que nous aimons tous, qui va faire le papa ou la maman à l'avance. C'est beaucoup plus ouvert, un rapport entre mecs. C'est pas parce que t'as discuté sur l'appli que t'as envie de ça et de ça, qu'il va se passer ça et ça une fois au lit, quoi. Tandis qu'avec une femme, c'est
établi.
C'est beaucoup plus imposé, quoi. J'ai l'impression que c'est... La société, elle impose, hein, elle impose des
donc,
choses.
Là, tu parles du pénétrant-pénétré, qui est une évidence avec une femme, c'est ça?
Oui.
Alors qu'avec un rapport homosexuel, tu sais pas ce qui va se passer.
Voilà.
Tu sais que les femmes peuvent pénétrer aussi.
Oui, mais c'est beaucoup plus rare.
Alors, je pense qu'effectivement, les femmes de ta génération, c'était quelque chose qui était totalement tabou. Là, de plus en plus, les femmes s'ouvrent en tout cas, et les hommes aussi, hein, parce que tu parlais de tes amants qui sont pas du tout homosexuels, mais qui sont hétérovicieux. Les hommes, de plus en plus, hétéros, sont... En tout cas, discutent, je dis pas sont à l'aise, hein, mais discutent du point P, de la pénétration anale, etc., sans que ça remette en cause, que la pratique remette en cause la sexualité. Qu'ils se fassent pénétrer, il faut que les nanas soient OK avec ça. Mais peut-être qu'effectivement, c'est aussi une question de génération.
Oui, sûrement.
Donc, tu as ces amants réguliers aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours autant de rapports sexuels?
Ah non, ça diminue. Hein, là, je veux dire que les capacités physiques, elles diminuent.
L'envie diminue aussi dans la tête?
Malheureusement, non. C'est-à-dire que non, on a toujours. Je peux plus baiser 6 personnes dans la journée, quoi. Donc,
Alors, pas beaucoup de gens peuvent le faire, hein. Ça, je... T'as eu jusqu'à 6 rapports sexuels par jour?
Je sais pas. Il m'arrive fréquemment d'en avoir au moins 4, quoi.
D'accord. Mais comment tu fais? Tu les mets où? À quel moment de la journée?
Non, mais je me rappelle très bien. Tu peux, on va rentrer dans des détails un peu sordides, mais tu vas au boulot le matin, tu t'arrêtes au bois, faire quelque chose avec un travailleur ou une travailleuse du sexe. Le midi, tu prends ta bagnole, tu vas chez une copine.
Sortie du boulot 5 à 7, et puis voilà. Le soir, bam. Tu as justement.
Puis on avait. Enfin, il faut dire qu'on est dans une. Dans les années 70, on prenait 2 heures pour bouffer le midi, quoi.
Et ouais.
C'est plus le cas maintenant. Faut se remettre dans les contextes de l'époque, quoi.
Ouais.
Tout le monde avait. D'abord, le repas, il commençait à 11h30 avec un verre de pastis et le 451. Après, il y avait la bouteille de pinard sur la table.
La belle vie.
Et on terminait le repas à 14h30, à moitié torché. Et on retournait au boulot. Donc,
la productivité!
La productivité, t'es au top.
Tu as justement, alors j'aime pas ce mot, mais payé pour des prestations sexuelles.
Oui.
Donc tu as encore aujourd'hui.
Non.
Mais ça t'est arrivé d'aller voir des prostituées?
Oui, oui, oui.
Alors des prostituées ES. C'était quoi alors, le?
Des prostituées ES. Et puis je sais que t'aimes pas le terme, mais on va revenir sur parce que t'avais fait une intervention sur les chimails.
Ouais, exactement.
Les chimails, c'est un terme utilisé dans l'industrie pornographique et dans l'industrie de la prostitution.
C'est vrai.
pour désigner un type très particulier de M to F, d'hommes qui se transforment en femmes, mais qui qui gardent leur sein, mais qui se feront jamais opérer, et qui souvent ont des queues absolument magnifiques. Disons les choses comme elles sont. Donc.
C'est vrai qu'effectivement, j'avais fait ce petit rappel parce que.
Alors c'est un terme injurieux pour la communauté.
Voilà,
trans
c'est ça.
Habituelle.
J'ai très envie qu'on fasse attention à ça et qu'on ne catégorise pas tous ces gens parce qu'effectivement pour les TDS qui sont M2F, il y a effectivement une volonté parfois de garder son sexe parce que effectivement certains clients vont chercher, c'est-à-dire ce corps de femme mais qui garde effectivement leur pénis mais c'est vrai qu'après il y a aussi toute une partie de la population qui est mal dans son sexe, dans son genre, et du coup ça m'embête un peu, tu vois, qu'on mette ça dans un panier. Et donc je te remercie de dire effectivement que le chimel c'est une codification de l'industrie pornographique et des TDS, de faire ce distinguo.
Et il y en a plein en Thaïlande qu'on appelle les ladyboys.
Ouais, les ladyboys. Du coup je me permets cette question, pourquoi les chimel, qu'est-ce qui est excitant? C'est justement cette dualité.
J'avais une fascination. J'ai toujours été à la recherche du pénis idéal.
Une quête.
Une quête.
Si tu lavais pas, je lavais.
Du pénis idéal.
D'accord. C'est quoi le pénis idéal?
Un truc que je trouverai jamais, mais donc c'est fascinant d'avoir une recherche comme ça.
D'accord. Tu cherches le pénis idéal. Est-ce que certains de tes amants, dans les centaines et milliers d'hommes que tu as fréquentés, se sont approchés?
Ah oui, mais tu dis, il y a forcément mieux.
Donc, t'es l'éternel insatisfait du pénis. D'accord. C'est quoi le pénis idéal? C'est quelle taille à peu près?
Il faut que ce soit utilisable.
Donc, on est sur une taille raisonnable.
Sur une taille raisonnable, une circonférence raisonnable. Parce qu'il y a des gens qui sont attirés par les énormes trucs. Mais bon, après, quand tu discutes justement avec des gens qui ont des énormes trucs, qui sont très jolis à regarder, mais ils disent, mais moi, je suis emmerdé parce que je peux coucher avec personne.
Circoncis ou pas?
Non, pas circoncis. Je trouve que la circoncision, c'est vraiment... On gueule à juste raison contre les excisions. La circoncision, merde, c'est quand même une atteinte à l'intégrité corporelle. Je vois pas pourquoi. Et puis t'as le gland moins sensible. Je connais beaucoup de gens qui auraient préféré ne pas être circoncis.
Donc aujourd'hui, tu disais que tu ne vas plus au bois.
Non, mais d'abord j'ai plus de bagnole, donc.
Ah oui. Donc c'est long d'y aller en métro.
Non, mais ça c'était pour sauver la planète. J'ai décidé.
C'est bien.
Plus aller au bois, c'est mon effort.
C'est beau. Je sais pas si Nicolas Hulot va écouter, mais ok.
Non, puis c'était une période. Mais c'est assez fascinant.
Je peux comprendre.
C'est organisé par... je pense qu'un géographe...
Un cartographe pourrait faire...
Il y a vraiment... C'est délimité par spécialité, quoi. Donc, t'as l'allée des chimelles, l'allée des... Enfin, bon...
Donc, t'as quoi? T'as l'allée des chimelles, t'as l'allée des prostituées femmes.
Oui, t'as plus beaucoup d'allées de prostituées femmes.
Par spécialité, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'elles font?
En fonction de ce qu'elles font, oui. Bon, c'est...
Ah oui, c'est fascinant. Puis... C'est un microcosme, en fait.
Oui, c'est un microcosme, mais il y a quand même beaucoup de monde qui y va.
Et c'est qui y va?
Je crois à toutes les classes sociales. Alors ça, je crois qu'il y a de tout.
Tout âge?
Tous les âges, oui, tous les âges. Mais ça, on devrait pouvoir... Parce que moi, je me suis fait choper une fois par les flics.
Et
J'ai...
Un petit racolage...
Donc j'ai été poursuivi pour exhibition sexuelle. Et j'ai eu une amende, ouais, qui a été amnistiée après. Donc on m'a remboursé, le trésor public m'a remboursé l'amende en plus.
Pour l'exhibition sexuelle, ça c'est classe. On arrive donc effectivement à ce que tu disais, donc à partir de 99, que des hommes. Et là ta vie sexuelle change ou pas, le fait de ne plus avoir de relations hétérosexuelles? Est-ce que tu vas dans d'autres quêtes? Est-ce que tu consommes du porno que homosexuel ou tu continues de consommer du...
Je consomme quasiment plus de porno parce D'accord. que c'est devenu complètement nul.
Pourquoi c'est nul?
Ah non,
raconte-nous que... Vincent.
Non, c'est...
C'est trop quoi?
Alors c'est souvent très violent, trop violent. Ça représente pas du tout la... Bon, on sait déjà que le porno, c'est pas la réalité, mais là, c'est quand même...
Oui. C'est trop faux pour toi.
Et puis c'est, alors moi je suis, ce qui m'excite c'est le, c'est pas l'image, c'est le son. Et c'est pas synchronisé. Enfin, quand il y a du son, alors il y a un truc qui est absolument horrible, c'est les pornos sur où le fond est musical. Alors là,
tu perds tout.
Regarder un porno sur une symphonie de Mahler, je vois vraiment pas comment ça peut exciter qui que ce soit. Et je vois pas comment les gens ils peuvent avoir l'idée de faire ça. Enfin bon. T'as les pornos sans son, alors là je vois pas non plus.
Oui, l'intérêt pour toi, ouais.
L'intérêt. Et moi ce qui m'excite c'est le son, c'est vraiment le son. Je peux me vendre beaucoup plus facilement sur des.
On commence
à trouver quelques sites.
Il y a quelques podcasts.
Quelques podcasts de uniques.
Ouais, il y en a.
Et je trouve que c'est beaucoup plus excitant que.
Qu'une image violente. Qu'une image
que t'as déjà vu mille fois.
Et c'est. Tu consommes du porno homo?
Ah oui, que homo, oui.
Et est-ce que tu as des recherches particulières, des tags ou tu regardes, enfin tu regardais parce que tu disais que tu en consommais moins, mais tu regardais quoi, des rapports plutôt classiques ou il y a des choses qui particulières, parce que Loïc qui avait parlé à ce micro, parlait de ses fétiches.
Ce que j'ai dit précédemment, ça peut sembler assez évident, je regardais British School.
Ah, du coup il y a un lien, il voilà. Y a un lien effectivement avec tes premiers émois. C'est rigolo, ouais. T'as rencontré justement dans tous tes partenaires, parce que je peux pas te poser la question si tu t'en rappelles de tous, c'est pas possible.
Ah non, je me rappelle de très peu. Hein.
Ça t'arrive de croiser un mec et de te dire peut-être que. Bon, oui, Paris,
ça m'est arrivé il y a pas longtemps, un plan internet. Et le mec arrive, il me dit, il avait une mémoire incroyable, il me dit, ah mais on s'était déjà vu il y a 20 ans.
Ah oui, effectivement.
J'ai dit, bien sûr. T'étais sûr? Il me dit, oui, je suis certain, tout ça. Bon. Et je lui dis, ben, c'était bien ou pas? Parce que
c'est surtout ça qui est important. D'ailleurs, c'est quoi un bon coup pour toi, Vincent?
Ah oh ben un truc où on prend son, où chacun prend son pied. Mais tu sais que, bon, 98% des plans, c'est l'équivalent d'une branlette améliorée, quoi.
Ah, tu vois,
c'est
comme
le repas
ça.
Amélioré à la cantine, quoi.
Tu le vois comme ça?
Oui, c'est agréable, on s'est fait plaisir, ça a duré une demi-heure.
Donc tu décorrèles totalement l'acte sexuel de ce que tu peux ressentir émotionnellement?
Oui, complètement. Ah oui, alors là, complètement. Ah oui, c'est complètement décorrélé.
Tu comprends, pour des gens, c'est pas évident?
Non.
Pour certaines personnes, des gens, je ne peux pas dire ni des femmes ni des hommes pour ne pas genrer, mais pour des gens, c'est impossible de décorréler le sexe et l'émotion.
Non, mais pour moi, j'ai toujours comparé le sexe à la nourriture. C'est quelque chose d'aussi essentiel d'avoir des rapports sexuels que de manger. Et puis, dans la nourriture, ça peut aller de la junk food au repas gastronomique.
C'est une bonne analogie.
Et en passant par le bistrot du coin, en passant par...
Du chinois, ça voilà. Peut être de l'indien, ça peut être de l'italien. Ok, non, c'est bon.
Et alors, sur le... puisqu'on parle de chinois et de régions du monde, je m'élève en faux contre ce que disent les médecins, que la taille de la teub n'est pas corrélée avec la région de naissance.
Parce que faire un échantillonnage. Bah,
sur mon échantillonnage, certes pas représentatif.
Bah, qui est digne d'une étude scientifique quand même.
Mais c'est pas du tout ce que j'ai constaté.
Donc tu as constaté quoi?
Bah, j'ai constaté que les Asiatiques ont plutôt tendance... Alors évidemment, il y a des exceptions, hein, mais ont plutôt tendance à en avoir de plus petites. Et que les Noirs et les Arabes...
Les gens d'Afrique,
sont mieux
c'est teubés plus
que les Français moyens. Quoi.
C'est bien, en même temps, t'aurais pu vendre cette étude. D'accord. Donc aujourd'hui, ta sexualité, c'est à 69 ans, c'est moins, tu disais. On parlait avant d'ouvrir les micros, on parlait aussi un peu de la médecine qui t'aide, un peu.
Oui.
Donc c'est quoi? T'as ressenti le besoin vers quel âge?
Il y a 6 mois.
Ah oui, donc récemment.
Oui, récemment, oui.
À presque 70 ans, c'est plutôt bien.
Bonne oui, je me plains pas. Hein.
Et en plus, c'est ce que tu disais, c'était lié à un autre petit
souci. Un souci de prostate.
Voilà, et le médicament que tu as.
Donc l'urologue m'a gentiment proposé soit un alpha-bloquant en me disant l'effet secondaire, c'est que vous pourriez ne plus avoir d'éjaculation. soit de prendre du tadalafil, ça c'est le nom de la, le nom
la molécule,
le nom de la molécule journalier. Et là, l'inconvénient, c'est que vous risquez d'avoir des érections comme lors de vos, comme quand vous aviez 15 ans. Et je dis bon, ben on va essayer le tadalafil.
On va prendre la deuxième option. Et donc tu disais oui, effectivement, du coup, t'avais des érections, enfin, c'était revenu et t'avais certaines érections matinales comme t'avais plus moins en tout cas. Ça joue aussi avec ta sexualité en ce moment?
Ah oui, 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 parce que je suis sûr de bander, quoi, donc...
Non, ta libido est comment? Est toujours... Est-ce qu'elle est aussi intacte quand tu étais plus jeune, ou les choses ont évolué?
Ah non, j'ai beaucoup moins de libido qu'avant, hein.
C'était déjà pas mal.
Non, j'ai besoin de 2 rapports par semaine.
2 rapports par semaine, tu arrives à les avoir, à les satisfaire?
Oui.
Donc avec tes amants, on va dire un peu réguliers, et puis pareil, toujours au sauna?
Oui.
Ok, plus du tout envie avec les femmes?
Ah non, non, non.
Tu regardes plus les femmes?
D'un point de vue de désir,
ouais, non. Vraiment de désir sexuel, non?
Non, 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 plus du tout.
Comment tu choisis un partenaire?
Ben, dans la rue, le physique joue beaucoup. Après, quand tu connais les gens, après, il y a. Moi, je suis un peu, comment on dit, sapiosexuel.
Sapiosexuel, ouais.
Sapiosexuel, donc.
Sur l'intellect. L'intellect t'attire.
L'intellect m'attire beaucoup. Donc, j'ai un pote hétéro avec lequel je m'entends bien intellectuellement. Et
si jamais il était un peu hétéro,
j'arrête pas de lui dire non, mais tu devrais essayer quand même.
Vraiment, mais juste pour essayer.
Juste, tu lui ouvres quelque chose.
Comment tu vois ta sexualité demain, du coup, Vincent?
Ben, ça approche quand même de... Ça se termine. Hein,
bah, l'espérance de vie s'allonge. T'as encore 25 ans facile, là.
Mmh.
Et donc?
Mais, ben, ça va diminuer petit à petit.
Attends, t'as ton super traitement maintenant.
Pardon?
T'as ton super traitement.
Oui, mais enfin bon...
Tu penses que tu auras toujours cette libido-là quand même? Parce que même si elle diminue, c'est quand même... Tu fais partie des gens qui ont une... forte libido. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu peux parler de dépendance sexuelle?
Non. Non, 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 je peux très bien être abstinent pendant plusieurs mois. Ça m'est
déjà
arrivé,
oui.
Ça.
Ouais. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de penser au sexe?
La maladie, par exemple.
La maladie.
J'ai eu un cancer du poumon que j'ai arrêté de baiser pendant quelques mois.
C'était il y a longtemps?
Il y a 10 ans. Il y a un peu plus de 10 ans. J'ai eu un bol fou. Ça a été détecté très tôt. Donc, ça a été opéré. On m'a enlevé un lobe et c'est parti chez la napate. Et on m'a dit, il n'y a pas besoin de chimio. Vous êtes guéri, monsieur.
Donc, tu peux être abstinent, c'est ce qu'on disait. Mais tu te vois vieillir avec donc cette libido, bah, toujours dans la tête, comme tu disais, qui reste présente. Mais tu penses que le corps, au fur et à mesure, va...
Oh bah, il décline, hein, ça. Alors, je peux te dire que là, dans la vieillesse, là, je suis avec une genouillère. Bon, là...
Ça ne se voit pas.
Oui, mais enfin bon, non, non, le corps, c'est très chiant de vieillir. Hein, c'est vraiment très chiant.
C'est chiant de vieillir, ouais.
Oui, c'est vraiment chiant. Hein, tu te réveilles le matin en te disant qu'est-ce qui va tomber en panne aujourd'hui, quoi. Donc,
il n'y a pas quelque chose de positif à l'idée de prendre de l'âge?
Si, tu as beaucoup plus de distance vis-à-vis des choses, quoi.
Et justement, tu regrettes peut-être d'avoir pas pris de distance à un certain moment dans ta vie? On parlait au début du masque social, des choses comme ça.
Ben, je trouve que les regrets, ça sert à rien. Donc,
je suis bien d'accord.
Quand ça sert de regretter, ça, j'ai fait. Hein, donc,
Mais si tu pouvais changer quelque chose?
Ah bah si je pouvais changer quelque chose, ça aurait été d'assumer tout de suite, oui. D'assumer tout de suite.
Tes enfants savent que tu es homosexuel?
Oui, oui.
Et ça s'est passé...
Oh, ça s'est passé très très bien. Ça a l'air de leur poser aucun problème.
Vous en parlez librement?
Oui, oui, tout à fait librement.
Tu leur as déjà présenté à quelqu'un?
Oui.
Donc l'homme avec qui tu es resté,
oui,
un an?
Oui.
Donc c'est une belle preuve d'ouverture d'esprit, c'est chouette.
Non, il me faut souvent remarquer que ce qu'ils me présentent leurs copains, leurs copines, enfin, parce que j'ai une fille qui présente ses copains et 2 garçons qui me présentent leurs copines, ils me font remarquer, ils me disent c'est incroyable, dès qu'on vient bouffer avec toi, on parle de sexe tout de suite.
En même temps, t'es encore en activité professionnelle?
Non, je suis retraité.
Donc du coup, t'as le temps maintenant, encore plus? C'est mal fait, hein, parce que quand tu travailles, t'as pas forcément le temps.
Oui. C'est très mal fait. On devrait commencer à travailler à partir de 70 ans et être en retraite.
C'est ça.
De...
Exactement. Ah, ce serait vrai quand t'as la forme physique pour faire que ça. Tu es pas grand-père?
Non.
Ok.
Et je crois que... Enfin, j'ai deux de mes enfants qui, je pense, ils ne veulent pas d'enfants. Parce qu'ils se disent que, vu le merdier...
dans lequel on est, ouais.
Dans lequel on est, il n'est pas très responsable de faire des gamins.
Et des discussions que tu as avec eux,
oui.
Tu comprends leurs décisions ?
Oui, tout à fait, oui.
Est-ce que, la paternité, ça t'a épanoui ?
Est-ce que ça m'a épanoui ? Ça m'a ouvert, en tous les cas, oui. C'est très, très chouette d'avoir des enfants. Tu te fais des soucis pour eux, c'est chiant aussi.
Et comme toi, t'aimes pas faire de compromis ?
Non. Alors ça, les gamins, je les ai jamais fait chier. Hein.
Ah.
Ils font ce qu'ils veulent. Je leur donne... faut vraiment qu'ils me supplient pour que je leur donne un conseil. Ils mènent chacun de leur vie.
Ah, t'as un papa cool.
Et j'ai jamais projeté en disant tiens, ce serait bien qu'il soit président de la République ou enfin bon.
On leur souhaite pas.
Ou je sais pas quoi. Enfin bon, je me suis dit il faut qu'ils trouvent leur chemin, qu'ils vivent leur vie, qu'ils soient heureux quoi. Donc c'est
chouette. C'est des belles valeurs en tout cas. Est-ce que tu as un mot pour conclure cet entretien ?
Oui, je voudrais dire un truc aux gens qui ont une sexualité un peu. Faites-vous dépister, et vraiment faites-vous dépister parce que c'est important, et faites-vous bien dépister. Parce que je me suis aperçu que les médecins généralistes, alors d'une part, si vous avez des rapports HSH, comme on dit.
Ce qui veut dire
hommes ayant du sexe avec des hommes. Parce que vu le merdier dans lequel on est maintenant, avec le nombre, je crois, on a 52 genres répertoriés. Les médecins, ils ont raison de dire, d'aller au plus simple, HSH ou pour en français FSF pour les lesbiennes, plutôt que de partir dans des catégories improbables. Donc, dites-le à votre médecin parce que ça peut lui donner quand même des pistes si jamais vous tombez malade. Et faites-vous dépister sur les trois sites. C'est-à-dire, faites-vous, s'il y en a besoin, faites-vous dépister dans la gorge, faites-vous dépister par prise de sang et faites-vous dépister dans l'anus. La plupart des généralistes, vous leur demandez un dépistage IST, ils vont vous faire VIH, syphilis, point barre. Faut faire les hépatites, faut faire chlamydia, gono dans la gorge. Si vous utilisez votre gorge pour votre langue, voilà. Et dans l'anus, si vous l'utilisez pour des pratiques.
D'accord. Ça a l'air de tenir à cœur.
Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert avec la PrEP récemment. Les gens qui sont sous PrEP, on a dit la PrEP, enfin certains médecins ont dit, ou pas médecins d'ailleurs, ont dit la PrEP, ça va être une explosion des IST.
Donc la PrEP, qu'on précise ce que c'est ?
C'est un médicament que tu prends pour ne pas être contaminé par le sida.
D'accord, quand tu sais que tu vas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui potentiellement a le sida.
Oui, tout le monde peut potentiellement avoir le sida. Non. Enfin, avoir le sida, être contaminé par le VIH. Donc, il faut rappeler pour le VIH qu'un VIH qui a une charge virale indétectable n'est pas contaminant. Donc, on peut coucher avec lui, on n'a aucun souci.
Donc, c'est quelqu'un qui est sous trithérapie, ça ?
Oui, qui est suivi.
Qui
peut très bien ne plus être sous traitement et avoir une charge virale indétectable.
Oui, en tout cas, qui est suivi,
c'est quelqu'un qui est suivi, hein, qui a une charge virale indétectable. Après, les médecins... Hein, bon. Et la PrEP, c'est un médicament qu'on peut prendre soit à la demande, c'est-à-dire on prévoit d'avoir un rapport sexuel et en vue de ce rapport sexuel, on se protège, soit on continue, c'est-à-dire qu'on est protégé tout le temps, on prend le comprimé tous les jours, qui empêche l'infection par le VIH de se propager.
Mais que le VIH.
Mais que le VIH. Donc, toutes les autres IST, évidemment, se propagent. Donc, la condition pour que l'ordonnance de PrEP soit renouvelée, c'est que la personne soit dépistée tous les 3 mois avec tous ces dépistages-là. Sinon, son ordonnance n'est pas renouvelée. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait dépistage sur les autres, sur les trois sites. On m'en avait jamais
j'ignorais
parlé.
Aussi.
Pour moi, c'était la prise de sang et l'analyse d'urine et point barre.
Et en fait, il faut aller...
Et encore, l'analyse d'urine, il fallait dire à son médecin, il faut quand même regarder les gonocoques et les chlamydiés, parce que t'as des médecins qui te disent, mais monsieur, vous auriez des chlamydiés, vous auriez des symptômes. Or, 60% des chlamydioses et des gonocoques, ou je sais pas comment on dit, enfin des choses lisses, sont sans symptômes. Donc, c'est vachement important de le faire. C'est pris en charge à 100% par la Sécu et la Mutuelle. Les gens sous PrEP le font tous les 3 mois. Moi, personnellement, je le fais tous les 3 mois, mais faites-le au moins 2 fois par an.
Donc faites-vous dépister, c'est le mot de la fin.
Et faites-vous dépister et faites-vous bien dépister, quoi.
Ça marche. Ben, merci Vincent.
Je t'en prie.
Merci pour votre écoute et merci à Vincent pour son témoignage qui apporte encore une nouvelle vision de la sexualité masculine. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien, votre fidélité, votre bienveillance. Je suis toujours super contente d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux du podcast. C'est toujours un bonheur de partager. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.